Aujourd'hui, on n'a jamais été aussi connecté. Enfin, on a vraiment l'impression d'être au sommet de la technologie, quoi.
Ah bah c'est sûr, le fameux village global.
Ouais, exactement. On peut écouter, je sais pas, une station de radio de Tokyo ou de New York en étant dans les rues de Dakar ou de Kinshasa. Et ça, en une fraction de seconde.
Avec un son d'une pureté absolue en plus.
C'est ça. Juste en glissant un doigt sur un écran. En apparence, c'est vraiment l'apogée de l'ère de l'information. La victoire totale. Mais il y a un gros mais.
Un très gros mais, ouais.
Selon les spécialistes en ingénierie sociale, cette espèce d'hyperconnexion apparente, bah, elle cache en réalité la plus grande menace pour l'indépendance de l'information.
C'est un paradoxe fascinant, en fait. On confond très souvent la facilité d'accès avec la garantie d'accès.
Ouais, on a collectivement échangé un système de communication pratiquement indestructible contre un magnifique château de cartes numériques.
C'est exactement l'image. Et c'est précisément ce qui se joue en ce moment, de manière assez invisible pour le grand public d'ailleurs, avec la transition vers la radio numérique.
Bah oui, parce que le débat, c'est pas juste de savoir si on doit écouter de la musique en meilleure qualité.
Non, pas du tout. Le vrai sujet, c'est de savoir qui détient réellement les clés de l'infrastructure qui diffuse cette information.
D'accord, décortiquons cela, parce que c'est vraiment le cœur de notre exploration aujourd'hui. On plonge dans un éditorial stratégique hyper intéressant qui a été rédigé par Félicité Amanera Ravravincent.
Oui, la fondatrice de Radio Tam Tam Africa.
Tout à fait, et à travers son analyse, on va comprendre pourquoi la modernisation de la radio en Afrique, c'est absolument pas une simple mise à jour technique.
Non, c'est bien plus profond que ça.
Ce n'est pas juste genre remplacer des vieux micros par des ordinateurs neufs, quoi. C'est une question de survie, de sécurité et surtout de souveraineté.
Absolument, je suis tout à fait d'accord. Pour bien saisir l'enjeu, je pense qu'il faut regarder en arrière une petite seconde.
Vas-y, je t'écoute.
Historiquement, la diffusion terrestre analogique, tu sais, les fameuses ondes AM et FM que tout le monde connaît bien,
Ouais, le transistor de nos grands-parents.
voilà, bah ça a été une révolution phénoménale. Et sa plus grande force, c'était l'absence totale de barrière à l'entrée.
C'est clair, il suffisait d'avoir un récepteur super rudimentaire.
Exactement. Un petit truc alimenté par deux petites piles ou même une manivelle parfois, et hop, on captait un signal gratuit littéralement tombé du ciel.
En fait, c'était une immense place publique, un espace totalement ouvert où n'importe qui pouvait s'informer simplement en tendant l'oreille.
C'est une belle analogie, la place publique par excellence.
Mais quand on observe la manière dont l'audio est consommé aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le tout Internet, on réalise qu'on a abandonné cette grande place publique gratuite.
Pour s'enfermer dans un club privé ultra moderne.
Ouais, un club très select, quoi. Alors oui, le son y est parfait, le catalogue est infini. Mais l'accès y est strictement contrôlé. C'est comme s'il y avait un videur à l'entrée.
Un videur très exigeant même.
C'est ça. Pour entrer, bah, il faut un smartphone coûteux, un abonnement mensuel à un opérateur mobile et puis des forfaits de données Internet qui peuvent coûter cher.
Ce qui est fascinant ici, c'est que la mécanique physique de ce fameux club privé, on a tendance à l'oublier. L'illusion du tout streaming, c'est de croire qu'Internet flotte dans les airs, libre et insaisissable.
Comme un nuage magique.
Ouais, le fameux cloud. Or, Internet, c'est une infrastructure lourdement matérielle. Ce sont des milliers de kilomètres de câbles sous-marins, hyper vulnérables.
Des immenses centres de données aussi.
Exactement, des data centers qui consomment une énergie folle. Et puis des antennes relais 4G ou 5G qui coûtent des milliards à déployer sur le territoire.
Et tous ces coûts-là, bah, ils se répercutent inévitablement sur l'auditeur. Si quelqu'un vit dans une région rurale, par exemple.
Là où déployer la fibre optique n'est pas jugé rentable par les opérateurs privés, tu veux dire.
Voilà. Ou alors, si le coût d'un seul gigaoctet de données représente une part énorme du revenu mensuel de la personne, bah, de facto, elle est exclue de l'information numérique.
Le videur du club lui refuse carrément l'entrée.
Exactement. C'est une fracture terrible.
Et c'est là que l'analyse de Radio Tam Tam Africa met vraiment le doigt sur le piège. On a tendance à croire que le web a démocratisé la diffusion.
Bah oui, c'est le discours ambiant, non?
C'est le discours, ouais. Mais en réalité, il a surtout créé une dépendance technologique massive. Les radios ont cru trouver le salut en diffusant sur le net, mais elles ont en fait totalement délégué leur distribution.
Ah, je vois, je commence à comprendre le problème.
C'est une perte de contrôle.
Donc, en fait, déléguer son infrastructure au streaming, c'est un peu comme construire la maison de ses rêves sur un terrain qu'on ne fait que louer.
C'est une très bonne façon de le voir.
Si le propriétaire du terrain, disons un géant de la tech américain ou asiatique, s'il décide soudainement de changer l'algorithme ou d'augmenter les frais de serveur.
Ou pire encore, de bloquer l'accès pour des raisons purement politiques.
Bon, carrément. Bah là, on perd tout. La maison s'effondre du jour au lendemain.
C'est l'essence même de la perte de souveraineté. L'éditorial qu'on étudie insiste sur une valeur centrale qui est en train de se désintégrer sous nos yeux. C'est la confiance du public.
La confiance, ouais. C'est le pilier de l'information.
Dans un monde inondé de contenus générés par des algorithmes ou l'intelligence artificielle, cette confiance ne peut exister que si le média respecte des conditions strictes.
Lesquelles, du coup ?
Eh bien, il doit d'abord être accessible sans aucune discrimination financière. Et surtout, il doit être indépendant des conglomérats technologiques étrangers.
Ah oui, c'est logique.
Si un média africain doit passer par des serveurs californiens pour parler à des auditeurs africains, l'information n'est plus vraiment un bien public indépendant.
C'est juste un flux de données, en fait.
Voilà. Un flux conditionné par des intérêts commerciaux externes.
Mais attends, si l'indépendance est si vitale, pourquoi tout le monde s'est rué sur le streaming en premier lieu? Je veux dire, il doit bien y avoir une faille dans la diffusion terrestre numérique pour qu'on les mise de côté de cette manière, non?
Alors oui, la faille, c'est tout simplement que la transition numérique terrestre n'a jamais été achevée. On s'est arrêté en plein milieu.
Comment ça, en plein milieu?
On a numérisé les studios de production, ça oui. On a numérisé la distribution via les podcasts, par exemple.
D'accord.
Mais la toute dernière étape de la chaîne, c'est-à-dire la transmission par les airs, de l'antenne radio jusqu'au récepteur des gens, elle est restée bloquée dans les années 80 avec la bande FM.
Ah oui, le signal lui-même est resté vieux jeu.
C'est ça. Ou alors, ça a été purement et simplement abandonné au profit d'Internet.
Donc, si le streaming par Internet n'est pas la solution miracle, quelle est l'alternative? Parce qu'on ne va tout de même pas revenir au bon vieux grésillement de l'AM.
Non, heureusement que non.
C'est ici qu'entre en scène la fameuse diffusion terrestre numérique. Mais en creusant les documents pour cette émission, j'ai découvert que ce n'est pas si simple.
Ah non, c'est même très complexe.
Il y a une véritable guerre des normes technologiques en cours. En gros, il y a deux acronymes qui reviennent sans cesse dans notre dossier. C'est le DAB et le DRM.
Oui, c'est une sacrée bataille des standards. Et ça dépasse de très loin la simple querelle d'ingénieurs dans des laboratoires.
C'est politique.
Totalement. Les choix technologiques dictent carrément la géopolitique aujourd'hui. Actuellement, le débat mondial se concentre sur ces deux fameuses normes. D'un côté, le DAB.
Pour Digital Audio Broadcasting.
Voilà. Et de l'autre côté, le DRM, qui signifie Digital Radio Mondial.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement ? Parce qu'on a souvent utilisé l'analogie des transports pour ces deux-là.
Oui, c'est très parlant.
On lit souvent que le DAB, c'est un excellent réseau de bus de ville. C'est parfait pour transporter beaucoup de chaînes de radio sur de courtes distances en milieu urbain.
Tout à fait.
Tandis que le DRM, ce serait plutôt le train transcontinental. Mais je trouve que ça n'explique pas vraiment comment ça marche physiquement.
C'est vrai que ça reste un peu abstrait.
Si on veut vraiment comprendre, prenons plutôt l'image de la lumière. Le DAB, c'est comme un phare maritime ultra puissant et hyper moderne.
C'est une excellente image, je trouve. Parce que le DAB utilise des fréquences très élevées, la fameuse bande VHF, et la particularité physique de ces ondes, c'est qu'elles voyagent en ligne droite.
Voilà, tant qu'on est sur la côte, bien en ligne de mire du phare, la lumière est éblouissante.
Le son est parfait, sans aucune interférence.
On capte des dizaines de stations. Mais dès qu'on passe derrière une montagne, par exemple, ou qu'on s'éloigne tellement que la courbure de la Terre cache le phare, là, plus rien.
Le noir total.
Exactement. Le signal coupe net. Et donc, pour éclairer tout un grand pays avec des phares de ce type, il faudrait en construire des milliers sur chaque colline.
Ce qui coûte une fortune colossale en infrastructures terrestres, on est bien d'accord. Et c'est exactement le défi auquel font face les vastes territoires africains aujourd'hui.
C'est inadapté, en fait.
Le DAB est redoutablement efficace dans des pays denses et relativement plats, comme en Europe, ou alors dans de très grandes mégalopoles. Mais il est économiquement et physiquement inadapté pour couvrir un continent entier.
Surtout avec les zones rurales immenses, les forêts denses, les déserts.
Exactement. C'est là que le DRM, le Digital Radio Mondial, entre en jeu avec une approche physique, mais alors complètement différente.
D'accord. Alors là, j'ai vraiment besoin d'une explication claire de ta part. Parce que la source de notre sujet parle d'ondes qui voyagent sur des milliers de kilomètres avec une seule antenne.
C'est impressionnant, hein ?
Ouais. Attends. Elle parle de l'ionosphère. C'est quoi la mécanique exacte ici ? On parle de faire rebondir des ondes sur l'atmosphère comme sur un miroir géant ? C'est de la science-fiction, ton truc ?
Ah, non, c'est pas de la science-fiction, c'est la réalité physique. C'est exactement ça et c'est ce qu'on appelle la propagation des ondes ionosphériques.
Ok, j'écoute.
Le système DRM a l'immense avantage de pouvoir fonctionner sur des bandes de fréquences beaucoup plus basses, comme les ondes courtes ou les ondes moyennes.
D'accord.
Et ces ondes spécifiques ont une propriété incroyable. Lorsqu'elles sont émises vers le ciel, elles frappent l'ionosphère. C'est une couche de gaz ionisé qui est située très très haut dans l'atmosphère terrestre.
Et ça fait quoi du coup ?
Eh bien, l'ionosphère agit alors comme un immense miroir parabolique naturel. L'onde rebondit dessus, redescend vers la Terre, et elle peut ainsi franchir les océans.
C'est fou!
Elle saute par-dessus les plus hautes chaînes de montagne sans aucun problème et atterrit des milliers de kilomètres plus loin.
D'accord, je vois parfaitement l'idée. Donc, au lieu du phare du DAB qui tape directement dans la première montagne venue et qui s'arrête,
Ouais, qui se bloque.
le DRM, c'est comme si on tirait une fusée éclairante ultra-puissante vers le ciel. La lumière monte, frappe une couche de nuages réfléchissantes en quelque sorte, et redescend pour illuminer simultanément tout un continent.
Bien placée, elle peut couvrir un pays entier, voire même ses pays voisins.
Mais sur le plan de l'architecture de l'information, ça change absolument tout pour un État.
Ah bah c'est une révolution. Un État n'a plus du tout besoin de supplier des opérateurs privés d'installer des pylônes de relais ultra coûteux dans des régions isolées.
Surtout là où ce n'est pas rentable pour eux.
Voilà, l'État peut garantir par lui-même que chaque citoyen reçoit le signal, peu importe où il se trouve.
Bon, attends, je vais me faire l'avocat du diable une seconde.
Vas-y, je suis prête.
Si le DRM est si magique que ça, s'il permet de couvrir un continent entier sans ruiner le pays en antenne relais, pourquoi on ne l'utilise pas partout depuis 10 ans?
C'est une très bonne question.
Il y a forcément un piège. Ça doit être hors de prix ou bien la qualité du son doit être catastrophique, non? Il y a un loup quelque part.
C'est une question cruciale. Historiquement, le piège ne venait pas de l'émission des ondes, mais de la réception.
C'est-à-dire?
Le monde de l'électronique grand public a été très influencé par les marchés européens et nord-américains.
Et ces marchés ont massivement investi dans les puces de réception DAB.
Ah, parce que c'était leur norme à eux.
Exactement. C'était la norme choisie pour leur propre territoire, qui sont plus petits et très denses. Le résultat, bah, pendant longtemps, il était très difficile et très coûteux de trouver des récepteurs radio compatibles avec le DRM.
D'accord, donc l'appareil pour écouter n'existait pas vraiment sur le marché.
Voilà. Et on ne peut décemment pas imposer une technologie si la population n'a pas les postes de radio pour l'écouter.
Logique. Et pour la qualité du son?
Alors, bien que le DRM offre un son de qualité numérique très propre, la bande passante sur onde courte reste quand même inférieure à celle du DAB urbain.
Donc on ne va pas écouter un orchestre symphonique avec un...
Non, on ne diffuse pas de la musique classique en haute définition non compressée sur de l'onde courte. Par contre, on peut parfaitement diffuser de l'information claire, des données, des programmes d'éducation, de la voix.
C'est donc avant tout un immense effet d'inertie industrielle qui a freiné le truc.
Totalement.
Mais la source qu'on analyse aujourd'hui souligne que cette inertie est en train de se briser. Notamment parce que des pays gigantesques, comme l'Inde par exemple, ont adopté le DRM à très grande échelle.
Ah bah l'Inde, ça change la donne mondiale.
Compatible de série, vu la taille du marché indien.
Et si nous relions cela à une perspective plus large, c'est là que l'Afrique a une vraie carte maîtresse à jouer aujourd'hui.
C'est-à-dire ?
L'Afrique n'a pas à copier bêtement un modèle européen, qui ne correspond pas du tout à sa géographie. L'éditorial avertit très clairement là-dessus. Choisir sans stratégie, c'est subir.
C'est laisser l'histoire industrielle des autres dicter sa propre infrastructure de demain?
En revanche, choisir intelligemment, c'est reprendre le contrôle.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. On réalise que choisir entre le DAB et le DRM, c'est pas juste un comparatif de fiches techniques chez un vendeur d'électroménager.
Pas du tout.
C'est de l'urbanisme invisible. D'ailleurs, de plus en plus de spécialistes recommandent ce qu'ils appellent des modèles hybrides.
Absolument. Le pragmatisme voudrait qu'on déploie le DAB dans les très grandes métropoles urbaines très denses.
Là où son efficacité est maximale.
Exactement. Et qu'on utilise le DRM en complément pour tisser une grande toile d'information nationale et continentale robuste. Ce qui garantit l'équité territoriale. Tout le monde a l'info.
Et reprendre le contrôle de cette infrastructure, bah ça prend une dimension vitale quand on regarde de plus près les fonctionnalités de cette radio numérique terrestre.
Oui, il y a des options incroyables.
Parce qu'on ne parle plus du tout seulement d'une boîte qui crache de la musique en fond sonore.
Non, fini ce temps-là.
Les documents de votre recherche évoquent des trucs fascinants, genre la transmission de données cryptées, des programmes d'éducation à distance qui s'affichent sous forme de texte sur des écrans intégrés au récepteur.
De l'information en temps réel.
Ouais, et surtout, l'argument massue pour moi, les alertes d'urgence.
Ça, c'est le point d'inflexion majeur de toute cette technologie.
C'est vital.
Dans notre monde hyper connecté, on a vraiment tendance à oublier à quel point les réseaux cellulaires et Internet sont fragiles en cas de crise majeure.
Bah oui. Prenons le scénario d'une catastrophe naturelle. Genre, un ouragan dévaste les côtes ou un gros séisme frappe une région entière. La première chose qui saute, invariablement, ce sont les câbles et les antennes 4G.
C'est systématique. Et les réseaux mobiles saturent instantanément parce que bah, tout le monde essaye d'appeler ses proches en même temps.
Et là, le fameux club privé du streaming dont on parlait au début, bah, il ferme ses portes brusquement. plus de connexion, plus personne n'a d'informations.
Le silence absolu.
À ce moment précis, un réseau de radios numériques terrestres puissant, qui est capable de fonctionner indépendamment des fournisseurs d'accès Internet, ça devient le seul lien vital. C'est un véritable bouclier civil.
Cela soulève une question importante. Et c'est vraiment le message central de Radio Tam Tam Africa. Là, on ne fait plus de l'ingénierie, on fait de la politique au sens le plus noble du terme.
C'est-à-dire la souveraineté médiatique.
Exactement. La question à se poser, c'est « Un continent veut-il se contenter d'être un gigantesque marché de consommateurs abonnés aux plateformes étrangères ?»
Qui peuvent être coupés à tout moment.
« Ou veut-il être le propre architecte de son espace d'information ?»
C'est limpide vu comme ça. D'ailleurs, la devise même du média de l'auteur, c'est « La parole est une force ».
Une très belle devise.
Mais si on ne possède pas les tuyaux par lesquels cette fameuse parole voyage, bah on n'a aucune force en fait. On délègue complètement son pouvoir.
Voilà pourquoi la radio terrestre de demain n'a rien, mais alors rien, d'un média du passé. Elle n'est pas du tout rendue obsolète par les applications smartphones, contrairement à ce qu'on essaye de nous vendre.
C'est un outil de résilience absolue.
C'est un instrument indispensable pour tout État qui souhaite garantir qu'il pourra toujours, toujours s'adresser à sa population, quoi qu'il arrive sur la scène internationale ou même dans le cyberespace.
C'est passionnant. Si on synthétise un peu ce voyage intellectuel qu'on vient de faire ensemble, on réalise à quel point nos perceptions initiales de la modernité sont trompeuses.
Ah bah, très souvent.
On a d'abord déconstruit l'illusion du streaming par Internet, un système qui, malgré tout son confort, crée des fractures géographiques et une dépendance redoutable envers des acteurs privés et des câbles sous-marins très vulnérables.
Ensuite, en analysant la guerre des normes entre le DAB et le DRM.
Le phare contre le miroir magique.
C'est ça. On a compris que la physique même des ondes dicte la politique d'un territoire. On a vu que la capacité incroyable du DRM à faire rebondir ses signaux sur l'ionosphère, ça offre une solution technique révolutionnaire pour des territoires immenses.
Ça permet de contourner tous ces coûts prohibitifs des antennes relais locales.
Exactement.
Et enfin, on a touché à l'enjeu ultime de notre plongée d'aujourd'hui, la souveraineté.
Le cœur du sujet.
L'Afrique, tout comme d'autres immenses régions du globe d'ailleurs, se trouve à une vraie croisée des chemins. L'infrastructure invisible qui nous entoure, tu sais, ces ondes qui traversent l'air, cette architecture immatérielle, bah, elle détermine en fait qui détient le pouvoir concret de nous éduquer.
De nous informer de manière fiable aussi.
Et de nous alerter quand la situation devient critique. Le choix de la norme numérique terrestre, c'est tout simplement le choix de l'indépendance de demain.
C'est vraiment la clé de voûte de toute cette analyse. Comprendre comment se structure la diffusion de l'information aujourd'hui, bah c'est comprendre où résidera la véritable autorité au XXIe siècle.
C'est pas juste un petit sujet pour les geeks de la radio.
Non, ce n'est pas un simple enjeu de télécommunication. C'est la fondation même d'une société cohésive, équitable et véritablement libre de ses mouvements stratégiques.
Et d'ailleurs, cela amène à une réflexion finale qui prolonge super bien l'analyse et qui mérite qu'on y réfléchisse sérieusement pour ceux qui nous écoutent.
Je t'écoute.
On a beaucoup parlé de la fragilité d'Internet face aux catastrophes naturelles, aux ouragans, tout ça.
Oui, le bouclier civil.
Mais il y a une réalité beaucoup, beaucoup plus sombre dans la géopolitique moderne. Ces dernières années, lors de graves crises sociales, d'élections sous haute tension ou de conflits armés, on a vu une tactique terrifiante se banaliser un peu partout.
Les coupures volontaires ?
Exactement. La coupure volontaire d'Internet par des gouvernements autoritaires. D'un simple clic, paf ! Des pays entiers sont plongés dans le silence numérique total. L'opposition est aveuglée, le monde extérieur ne voit plus rien de ce qui se passe à l'intérieur.
C'est l'arme de censure absolue de notre époque, en fait.
Ouais, mais et c'est là que ça devient dingue. Si la technologie du DRM se déploie à l'échelle continentale, bah, tout ce paradigme de la censure s'effondre.
Ah oui, complètement. Les blocages numériques traditionnels deviennent instantanément inefficaces.
Bah oui, parce que le signal radio, lui, il passe quand même. Il rebondit sur l'atmosphère, il est indétectable, inarrêtable par de simples interrupteurs de serveurs informatiques.
On ne peut pas couper le ciel.
Exactement. Cette grande place publique gratuite, qu'on croyait complètement morte au profit des clubs privés d'Internet, n'a en fait jamais été aussi cruciale. Elle est en train d'être forgée de nouveau, sous forme numérique, sous les radars.
Une véritable forteresse d'ondes.
Sans mur, sans droit d'entrée, et surtout, absolument impossible à faire taire. Et au fond, c'est peut-être ça la véritable arme ultime de la prochaine guerre de l'information.